Paris, ville de toutes les lumières, ville de toutes les boutiques depuis longtemps, le musée Stuart nous offre la possibilité de faire une plongée dans l'histoire de ces vitrines du 18e siècle, qui étaient alors de véritables microcosmes, et je suis absolument ravie de pouvoir poser quelques questions avec Madame Sylvie Dauphin, conservatrice, chef collection. Bienvenue.
Merci beaucoup. Bienvenue de venir au musée.
Si on débutait par un peu d'histoire de ces vitrines qui avaient à l'époque un grand effet d'attraction au 18e siècle.
Oui, en effet. Déjà, Paris était reconnue comme la capitale du luxe. Bien sûr, on la visitait aussi pour ses monuments historiques. Mais déjà, les visiteurs qui faisaient le grand tour arrêtaient à Paris.
Pour faire quelques achats?
Oui, quelques achats, même plusieurs achats, profiter de l'expertise française et de la gentillesse des dames qui gardaient les boutiques aussi.
Les vitrines comme telles devenaient vraiment des véritables lieux d'exposition.
Oui, parce que la vitrine, la boutique évolue tout au cours du 18e siècle. Au départ, les vitrines comme telles ne sont pas tellement grandes, mais avec l'invention du verre coulé, la devanture de la boutique, la vitrine se crée, la vitrine telle qu'on l'imagine aujourd'hui, elle se crée. Et déjà, les marchands ont un sens du marketing, si je peux dire, et puis ils vont profiter de ça pour mettre de l'avant dans les vitrines des objets, attirer la clientèle. Et si bien qu'en cours de route, plus on avance dans le temps, vers les années 1780 et tout, il y a des témoignages des gens des visiteurs qui tiennent des livres de leur visite, des journaux de leur voyage, et qui décrivent
Émerveillement.
Oui, tout à fait, avec émerveillant. Ils décrivent les boutiques et ils décrivent aussi la quantité de gens qui se massent devant les vitrines. Et on dit de là l'expression aussi faire les vitrines, faire du lèche-vitrine, faire du shopping. On commence à l'activité de se promener comme sur la rue Saint-Honoré pour regarder les vitrines. Donc, déjà à l'époque, on va faire du shopping.
Alors que c'est intéressant de connaître un peu l'origine de cette expression que nous utilisons encore très fréquemment. Merci, c'est absolument fascinant. Et ces vitrines, quel type d'objets étaient vendus dans ces vitrines?
Il faut penser que la boutique à l'époque, elle est petite, donc elle est tenue par un maître, par un garçon de boutique, un apprenti. Alors, on ne peut pas s'imaginer les grands magasins comme on connaît aujourd'hui, mais ils deviennent de plus en plus spacieux. Alors, toute l'organisation du travail est très structurée. Il faut devenir maître, et quand on devient maître, on peut avoir seulement une boutique. Alors, on ne parle pas encore de chaîne de boutique.
Et puis alors déjà à l'époque, l'État exerçait toute une gestion de ces boutiques?
Oui, une forme de contrôle, sur l'organisation du travail. Un peu du protectionnisme, si on peut dire, entre guillemets. Et puis, dans l'exposition, ici, on présente des boutiques, des fabricants d'instruments de mathématiques, des boutiques qui tiennent des cartes géographiques, le marchand Mercier, qui est l'équivalent un peu du grand magasin avec des produits de luxe. On présente aussi les libraires, qui sont très importants dans le quartier de l'université, les marchands d'estampes, des arquebusiers et des fourbisseurs d'armes. Mais on n'a pas de... parce que l'exposition a été faite, bien sûr, à partir des collections du musée. Donc, on n'a pas la boutique de mode, de vêtements ou le bijoutier parce qu'on n'avait pas les objets pour présenter ce type de boutique. Mais ce type de boutique existait à l'époque.
Oui, et je suis absolument renversée d'avoir que tous ces objets qui sont exposés et qui sont vraiment des bijoux d'objets proviennent tous choses de votre collection? Vous avez une vaste collection.
Oui, en effet, on peut remercier le génie de M. Stewart et de son épouse après qui a continué l'œuvre du fondateur du musée. Je pense que tous les deux, ils étaient passionnés par les objets du 18e siècle et voulaient amener aussi une diversité dans les collections. C'est ce qui fait qu'on a pu reproduire différents types de boutiques. C'est la richesse de l'exposition. Et sur les deux étages, il y a près de 400 objets qui sont exposés. Tout est présenté en fonction des boutiques spécialisées et du lieu de la boutique. Alors, à partir des objets qu'on a, par exemple, les instruments scientifiques du 18e siècle, qui pour la plupart sont signés du fabricant. On a...
Quelques-uns, parce qu'elles sont en grand nombre.
Oui, de Langlois, de Lemaître, de Brion. Alors, et à partir des objets qui sont signés, on a retrouvé le nom de la boutique et retrouvé aussi où était la boutique. Alors, c'est ce qu'on a fait dans l'exposition.
C'est tout un travail, donc, cette exposition, c'est ce que vous me disiez, la genèse de cette exposition-là, ça a été vraiment, au départ, peut-être une petite question qui me brûle, c'est d'où vous est venue l'idée?
Ah oui, ben les projets, les concepts d'exposition évoluent. Au départ, c'est quelqu'un qui a souligné l'importance des collections du 18e siècle qu'on avait, l'abondance qu'on avait. Puis notre première idée, c'était de faire une exposition sur le luxe. Le luxe tel qu'on l'entend aujourd'hui, malheureusement, on n'avait pas assez d'objets pour soutenir une exposition.
Mais on retrouve quand même dans votre exposition un grand nombre d'objets luxueux là, qui sont un ravissement pour les yeux.
Oui, tout à fait, il y en a. Mais on a voulu élargir, c'est ce que les collections nous permettaient. Par exemple, les livres anciens, on a une collection de livres rares de 1500 titres que le public ne connaît pas beaucoup. Alors, ça nous a donné l'opportunité de les présenter. Et là encore, toujours en fonction de l'éditeur, à quel endroit le livre se vendait et où était situé. Dans le cas des libraires, ils sont principalement situés sur la rue Saint-Jacques et au quai des Augustins.
Justement, donc après avoir pensé à un concept de luxe, l'idée des boutiques vous est venue tout naturellement?
Oui.
Et c'est vous qui avez pensé cette idée-là?
Oui, mais écoutez, je suis pas la seule. C'est, on travaille en équipe et on fait rebondir les idées entre collègues. Mais aussi, j'ai travaillé avec les études, les historiens. Depuis les 20 dernières années, on travaillait sur l'histoire de la boutique. Alors déjà, ça donne des pistes. Et à partir de ça, ben oui, le concept a été élargi.
Écoutez, félicitations, quelle bonne idée. Si on regardait un petit peu une boutique en particulier, parce qu'on peut faire une immersion dans plusieurs des principales boutiques parisiennes. Alors, il y en a une en particulier qui m'a fascinée. Écoutez, le petit Dunkirk. Vraiment, dans le secteur de l'université. Voilà ici, vous avez aussi votre exposition, en tout cas, il y a beaucoup de citations dans votre exposition, dont une relative au Petit Dunkerque. Nous restâmes plusieurs heures au Petit Dunkerque. C'était l'enseigne d'un bijoutier demeurant à la descente du Pont Neuf. Rien n'est plus joli et brillant comme cette adresse boutique remplie de bijoux et de colifichets en or dont on paye la façon 10 fois ce que vaut la matière. Il n'y a pas de bijoux ici, mais cette station transmet tout l'enthousiasme de se rendre au Petit Dunkerque.
Oui, c'était un magasin très couru. D'ailleurs, la citation que vous venez de lire provient d'un récit de Madame Oberkirch, une baronne qui fait un périple à Paris, puis avec une de ses copines, ils vont après le théâtre, elles vont toutes les deux à la boutique du Petit Dunkerque. On a très peu de descriptions physiques des boutiques, même d'images. Ça a été une des difficultés dans l'exposition. Mais le Petit Dunkerque, il est décrit. On dit que c'était une boutique lumineuse, remplie de glace, donc des miroirs partout, que ça brillait, qu'il y avait des éclats de lumière, des colonnes, tout était luxueux, beaucoup de bois précieux. Alors, oui, ça fait rêver Et déjà,
ça donne l'envie de recréer cette boutique magique.
Oui, si on pouvait seulement évoquer le nom des boutiques en soi, c'est quelque chose. Le petit Dunkerque à la
Au chagrin de Turquie, qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, je pourrais pas vous dire, je sais pas trop. Ce que l'on sait de ce marchand, c'est qu'il aimait beaucoup tout ce qui était de l'importation d'Orient. Alors, peut-être que son nom vient de là pour montrer qu'il a une variété de produits qui va satisfaire une grande clientèle.
Et qu'il a peut-être la nostalgie de la Turquie, qui était vraiment un endroit mythique à l'époque, hein?
Oui, pour la qualité des produits, tout ce qu'on peut imaginer avec les soirées, les bijoux, et oui.
Ah, écoutez, ce n'est qu'un exemple, une des boutiques décrites. On va y aller avec le parcours proposé au public. Hein. C'est intéressant, ça permet vraiment de faire une montée, une remontée dans l'histoire. L'exposition débute justement par une étape d'importance, c'est-à-dire les métiers. Hein. Parce qu'avant les boutiques, il y a ceux qui créent ces objets vendus en boutique.
Oui, tout à fait. Le contexte est différent. Dans la première partie de l'exposition, c'était quand même important de resituer un contexte historique, à la fois peut-être un contexte économique pour expliquer que à l'époque la monnaie qui est utilisée c'est la livre et que c'est de la monnaie de métal, ce n'est pas on connaît pas encore la monnaie de papier et bien sûr tous les métiers parce que celui qui tient boutique doit obligatoirement faire partie d'une communauté. Par exemple, le marchand mercier, on en a trois dans l'exposition, devait faire un apprentissage de 3 à 5 ans, ça varie, chez un maître, lui-même qui avait été reçu. Ils ont des frais à payer pour leur formation, pour réaliser le brevet ou la maîtrise. Ils doivent aussi être français et être catholique. Et pendant la période de formation...
Critères de sélection assez serrés.
Oui, assez serrés, tout à fait. Et puis, pendant qu'ils sont en formation, ils doivent demeurer célibataires, naturellement, pour pas...
Se consacrer encore plus à leur art ou à leur artisanat.
Oui, pour pas avoir de distractions. Mais, puis tout ça, c'était notarié devant un notaire. Mais il y a une historienne qui a fait Arlette Farge, qui a fait une très bonne étude sur les rapports entre les maîtres et les apprentis. Et des fois, ben, ça ne tournait pas comme l'apprenti voulait. Alors, l'apprenti ne recevait pas la formation. On le prenait un peu comme un serviteur et tout. Alors, il y avait aussi beaucoup de conflits. Tout n'était pas rose dans l'atelier. Des fois, la femme du maître abusait aussi.
De là, le microcosme qu'on peut retrouver dans l'univers des boutiques. C'est à l'image de ce qui se déroulait au plan de la société, dans la société environnante. Hein?
Oui, puis surtout à Paris, c'était tout petit à l'époque et les gens vivaient entassés les uns sur les autres. Alors, le Paris qu'on connaît aujourd'hui ne correspond pas à ce Paris. Alors, il faut penser que la notion d'intimité n'existe pas. Que les gens vivent vraiment les uns sur les autres, se crient, passent d'un logement à l'autre, c'est autre chose.
Oui, c'est une autre dynamique sociale, tout à fait, c'est un autre climat social complètement. Et donc, après cette entrée matière, le parcours donc de l'exposition débute avec cette étape-là d'importance, qui est de parler, de présenter un peu les corps de métier. Par la suite, ce qui est intéressant, c'est que vous situez les différentes rues où se trouvaient les boutiques.
Oui, tout à fait. Mais en fait, pour suivre l'exposition, faire le parcours, on doit utiliser un guide de voyage. Donc, puisque ce sont des boutiques, on a décidé de pas mettre les cartels comme tels, les informations sur les objets pour pas alourdir, parce qu'on verrait pas ça dans les vitrines. Donc, tout est dans un guide qui est conçu comme un guide de voyage de l'époque, en présentant les trois principaux quartiers qui sont la cité, la ville et l'université.
Alors, merci de le préciser. Et ça, c'est un guide qui a été créé par quelqu'un en particulier?
Ben, par moi et des collègues qui ont collaboré aussi. Mais le souci qu'on a eu, c'est vraiment de l'écrire comme un guide pour chacun des secteurs qu'on aborde, une introduction avec une description de monuments qu'on verrait et tout, pour donner la coloration. Et volontairement...
Faire surgir des images.
Oui, c'est ça. Et volontairement, on a conservé des expressions de l'époque du 18e siècle et certains mots orthographiés comme le 18e siècle et tout ça.
C'est absolument charmant.
Oui, alors, mais quand même ces mots...
Quelques fourbisseurs au lieu de fournisseurs.
Oui, c'est ça. Oui. Et mais les mots sont mis en italique quand ça se produit. Comme encombrement, on utilise beaucoup encombrement, mais il n'y a pas de T à la fin. Et puis, une autre expression aussi qu'on utilise, les femmes de qualité. Alors ça, vous allez le retrouver dans le guide de voyage. Alors, muni d'un guide de voyage, vous partez d'un point A, qui est la place Dauphine, jusque, si vous avez la force de vous y rendre, jusqu'au faubourg Saint-Marcel, où là, vous pouvez visiter la manufacture des Gobelins. Et pour vous aider à vous retrouver tout au long du parcours, au sol, les noms des rues sont indiqués, comme par exemple le pont Notre-Dame, le quai de l'Horloge, la rue Saint-Honoré. On se promène devant les boutiques de ces secteurs, les principales boutiques que l'on voit, et puis on peut faire du shopping sans rien dépenser.
Tout à fait. C'est une occasion vraiment de voir de près ces objets, la facture très particulière du 18e siècle. Si vous nous présentiez c'est la beauté, l'esthétique de ces objets. Un ou deux exemples.
Bien, naturellement, si on pense à tous les objets de porcelaine. C'est de toute beauté. La porcelaine du...
La porcelaine de France, hein?
Oui, la porcelaine de France qu'on appelle à l'époque, mais qu'on connaît aujourd'hui comme soit la porcelaine de Vincennes ou la porcelaine de Sèvres. Mais à l'époque, on l'appelait la porcelaine de France parce que Madame de Pompadour puis Louis XV s'intéressaient beaucoup.
Ça m'amène justement un petit peu cette question-là, m'amène justement à vous parler de l'aristocratie qui fréquentait ces magasins.
Déjà au 18e siècle, la rue Saint-Honoré regroupe des boutiques de luxe. Près du Louvre et du Palais Royal, parce que les aristocrates sont là et, bon, ayant du temps pour faire du shopping, quoi de mieux. Et puis, les marchands merciers, entre autres Lazare Duvaux, qui tient la boutique à la Pagode, il est conscient de ça. Alors, il enjolive des objets pour le plaisir de cette clientèle fortunée, mais pas seulement des aristocrates aussi. Il avait comme clientèle...
La monarchie aussi.
Oui, la monarchie, mais la monarchie ne va pas dans la boutique pour acheter. La monarchie commande et fait acheter par des gens à leur service.
Mais elle tient à encourager le milieu, les commerçants.
Oui, on peut dire comme ça, mais ce que je voulais ajouter, c'est qu'aussi, il y a des collectionneurs et des peintres connus qui achètent des objets chez le Mercier. Mais le Mercier vend, c'est comme un grand magasin. Il peut vendre à la fois des jattes, des plats pour des animaux de compagnie, et puis des tailleurs, des cafetières en or qui coûtent une fortune, 1200 livres. Donc, c'est très varié comme prix. Il achète beaucoup, entre autres celui-là, Lazare Duvaux, il achète beaucoup de la production de la manufacture de Sèvres, de porcelaine de France, qu'il expédie après à travers le monde, donc chez les princes des royautés étrangères.
On revient un petit peu au parcours de l'exposition. Hein. Il y a un moment donné dans ce parcours, les personnalités qui ont soutenu beaucoup le milieu des commerces, des boutiques. Là. Vous identifiez quelques personnes en particulier. Bon, on parlait de Madame Pompadour.
Oui. En particulier, Madame de Pompadour et Louis XV. On sait qu'ils avaient des goûts luxueux, entre autres parce qu'ils achetaient chez le marchand Lazare Duvaux et le marchand avait un livre journal, donc le livre, sa tenue de livre, en quelque sorte. Donc, on sait exactement tel jour ce qu'ils achetaient. Alors, il y a une description, il y a le nom de tous ses clients et le prix aussi qui était acheté. Alors, pour l'exposition, je me suis amusée à prendre, à avoir un petit portrait dans une courte période pour déterminer un peu ce que Madame de Pompadour achetait et Louis XV. Mais je le répète, Louis XV n'est jamais allé à la boutique et Madame de Pompadour non plus, je ne crois pas. Mais elle s'intéressait beaucoup aux arts, elle encourageait les artistes, elle avait besoin d'objets pour meubler toutes ses résidences et elle avait une confiance en ce marchand, à tel point qu'il la conseillait même pour les parures dans ses cheveux.
C'est absolument charmant. Et peut-être redonner le nom de ce marchand.
Alors, il s'appelle Lazare Duvaux et il tenait la boutique à la Pagode sur la rue Saint-Honoré. Au départ, sur la rue de la Monnaie et après, sa boutique déménage sur la rue Saint-Honoré.
Alors, c'est tout un parcours à travers les boutiques célèbres de la société parisienne du 18e siècle. Vraiment, c'est, comme je le mentionnais, un émerveillement de vitrine dans le cadre de l'exposition en vitrine. Vous avez vraiment un souci de nous situer dans les principaux secteurs et les principaux secteurs de ces boutiques. C'est extraordinaire. Et vous avez ajouter en plus un complément à ce parcours. Vous avez, je pense, différentes attractions. Vous avez finalement un des 1200 exemplaires au monde de Plantes de Paris. Ça, c'est quelque chose à voir. Un grand livre en vitrine.
Oui, le plan de Paris qui est relié en atlas de 20 planches gravées. C'est le plan qu'on appelle le plan Turgot. Dans les années de 1734 de mémoire à 1736.
Un plan embelli, hein?
Oui, un plan embelli, parce qu'on ne voit pas s'il y a eu des feux à Paris comme il devait en avoir à l'époque, ou des endroits un peu comme qui sont pas construits, des terrains vagues, on ne les voit pas, parce que M. Bretez, qui a passé 2 ans à parcourir la ville et à tout dessiner à main levée, il a comblé tous les endroits qui n'étaient pas jolis pour les yeux. Parce que ce plan a été commandé par M. Turgot, qui est le préfet de police à l'époque. Et ce livre, qui a été édité en 1200 exemplaires, en fait, il était destiné pour des voyageurs célèbres ou pour des visiteurs importants. Il n'a jamais été en vente. Et eh bien, on a la chance, je ne sais pas comment, mais M. Stewart a réussi à avoir un exemplaire de ce magnifique atlas.
C'est quelque chose à voir, c'est magnifique. Et vous avez comme autre attraction, il y a un vidéo, vraiment, vous m'avez décrit ce vidéo-là comme un outil une œuvre d'archéologie sonore. Ou un outil d'archéologie sonore?
Oui, c'était fait par une musicologue française, Madame Pardoen, qui travaille avec un groupe de recherche et qu'elle qualifie elle-même d'archéologie sonore. C'est un travail d'une dizaine d'années de recherche et ils ont reconstitué Paris, un secteur très très précis de quelques rues.
Lequel?
Sur l'île de la Cité, là, de mémoire, j'oublie le nom de la rue, mais c'est vraiment au centre de l'île de la Cité, quelques rues. Paris, au mois de mai, un jour de marché en 10h et 11h le matin. Mais je vous dis ça parce que, au fond, oui, tout est précis, parce que comme fond sonore, entre autres, on attend le bruit du marché, de la boucherie, et on sait que à cette période-là, boucherie se faisait et que les animaux arrivaient en marchant, les troupeaux déambulaient et arrivaient au marché pour où on faisait boucherie. Alors tous les sons, même le son des oiseaux et tout a été étudié. Si on entend le son d'un oiseau, c'est parce qu'ils ont trouvé dans les archives des factures, des comptes où on nettoie, on donne le contrat pour aller nettoyer des nids de martinets. Donc, tout est très précis, il n'y a rien de gratuit.
Alors, il faut vraiment s'arrêter quelques instants pour prendre connaissance de ce vidéo très, très scientifique. C'est absolument fascinant. Et en fin de parcours, hein, vous proposez une série d'estampes exposées. Vraiment, les arts visuels, il y a une bonne place réservée aux arts visuels en fin de parcours avec cette série d'estampes magnifiques.
Oui, parce que les graveurs avaient leur atelier dans le quartier de l'université, tout près des libraires, parce que ce sont des métiers où les gens travaillent ensemble. Le libraire qui doit illustrer les livres commande au graveur les planches. Voilà. Et puis, c'est une communauté, les gens se côtoient, se marient entre eux. Enfin, il y a une proximité très importante. Et puis, c'était intéressant. Parce que, encore là, le Stewart possède une très belle collection de gravures du 18e siècle. Et les gravures, alors ça, c'était facile pour nous, les gravures sont identifiées. Alors,
Que vous avez dû être ravis de pouvoir avoir cette information-là accessible.
Ben oui, c'est un plaisir comme conservateur, parce que, je dirais pas toutes, mais dans la majorité des cas, la gravure est signée, c'est-à-dire que on indique en bas ce qu'on appelle la lettre de la gravure, chez la veuve Chérault, aux colonnes, aux colonnes d'Hercule ou à la reine du clergé, rue Saint-Jacques. Alors, comme ça, on peut faire une sélection de toutes les boutiques, toutes les gravures dans telle boutique. C'est comme ça qu'on peut déterminer sur la rue Saint-Jacques, parmi bien sûr la collection qu'on avait nous, toutes les boutiques qu'on peut présenter.
Et évidemment, j'ai été tombée sous le charme de coquettes estampes de mode.
Oui, ce qu'on appelle des gravures de mode. Là, vous faites allusion aux gravures de Pierre Mariette, oui, les gravures de Mariette aux colonnes d'Hercule. Oui, ce sont ce qu'on appelle des gravures de mode, très accessibles, en fait, pour les gens, pour enjoliver les maisons, mais aussi pour garder en recueil, ce qui se faisait beaucoup à l'époque. On avait très peu de gravures encadrées, quelques-unes, mais c'était moins la façon de faire. Et puis, Mariette, il est très connu. Il était très, très prolifique et ses gravures, toujours des femmes représenté, c'est très joli.
Oui, dans des tenues vestimentaires des plus opulentes, des plus luxueuses, vraiment. Et il faut se rendre jusqu'en fin de parcours. Il y a deux autres clous de l'exposition, c'est-à-dire une grande tapisserie, hein, de très grand format, vraiment une qui avait été oubliée dans le répertoire des tapisseries de la manufacture Gobelet. Hein?
Oui. Gobelin. Oui. Bien, en fait, oubliée, c'est-à-dire qu'elle n'était pas connue, elle ne faisait pas partie de l'inventaire de la manufacture des Gobelins. Mais on a un tout petit doute, c'est-à-dire qu'on sait que le carton a été commandé chez les Gobelins. La tapisserie fait partie d'une série de quatre. Nous avons les noces de village, mais il y a aussi la fête au village, ou enfin, j'oublie les autres. Et puis, on sait qu'il y en a, de ces quatre, il y en a deux qui ont été tissés à la manufacture des Gobelins, mais les deux autres, il y a un petit doute, peut-être que c'était à la manufacture d'Aubusson. Il faudrait faire des recherches approfondies pour préciser.
Et on est seulement captivé par la grande finale, qui est une œuvre de réalité virtuelle, réellement, là. Le concept qu'on retrouve d'image en image, c'est la boîte, hein?
Oui, c'est ça. C'est fait à partir de découpage. En fait, ça clôt d'une manière poétique le Paris, l'exposition du 18e siècle. Le visiteur se retrouve dans un Paris sous la neige. D'ailleurs,
Paris rêvé aussi.
Oui, un Paris rêvé, mais c'est même là, ce travail de réalité virtuelle est basé sur des faits historiques. Effectivement, à Paris, des fois, il y a de la neige et tout. Et sur le pont Neuf, c'était reconnu qu'il y avait des filous qui voulaient voler les sous. Et oui, l'expérience de réalité virtuelle a été réalisée par une firme très, très créative, la firme Le Boulevard, ici à Montréal.
C'est à ne pas manquer, je vous le dis.
Oui, oui, et c'est quelques minutes de ravissement qui clôt tout à fait l'expérience de Paris.
Alors, Madame Sylvie Dauphin, vraiment conservatrice, chef collection, un énorme merci pour ce voyage à travers l'exposition, mais surtout à travers l'histoire du 18e siècle, les boutiques, la société de l'époque. C'était vraiment absolument fascinant de m'entretenir avec vous. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.